Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Nous approchons des fêtes de Noël et quel plus beau cadeau à Noël pour ceux qui aiment la géopolitique que d'offrir un abonnement à Conflit. Si vous aimez nos émissions et si vous aimez Conflit, eh bien vous pouvez offrir des abonnements à vos proches, notamment en vous rendant sur notre site internet revueconflit.com, sur notre boutique en ligne. Boutique en ligne où vous pouvez également retrouver nos anciens numéros, notre numéro en kiosque dont le dossier est consacré à la mer de Chine et à la puissance chinoise dans cette zone géographique, et notre dernier hors-série qui est consacré à l'armée de terre. Après un hors-série armée de l'air en 2020, l'armée de terre est à l'honneur cette année. Et puis également les anciens numéros que vous pouvez retrouver et acheter sur notre boutique en ligne et vous serez livré quelques jours après celle-ci. En vous abonnant à Conflit, vous nous permettez de nous développer et de vous proposer du contenu varié et que j'espère de qualité aussi. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à suivre ces émissions, ce dont je vous remercie chaleureusement. Cette semaine, nous allons évoquer avec mon invité Hervé Drévillon la question de la stratégie militaire, de la réflexion militaire autour d'une charnière intellectuelle, charnière militaire aussi, où nous allons le voir, entre les années 1780 et 1837, il y a eu une grande réflexion sur la stratégie militaire. Hervé Drévillon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu au micro de Conflit. Vous êtes historien de l'histoire militaire, vous êtes professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur la question militaire, notamment vous avez contribué à diriger cette belle collection chez Passé Composé Mondes en guerre, quatre volumes qui traitent de l'histoire militaire de l'Antiquité à nos jours. Et puis toujours chez Passé Composé, cet ouvrage assez surprenant, on va en parler la manière dont il est organisé, surprenant, donc consacré à la réflexion militaire, penser et écrire la guerre contre Clausewitz, 1780-1837. Toutes les références, comme chaque semaine, sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Alors, je dis surprenant parce que, de prime abord, quand j'ai vu paraître l'ouvrage, enfin quand l'éditeur m'a dit que l'ouvrage était paru, je me dis tiens, c'est un ouvrage sur Clausewitz et on va avoir comme ça une réflexion sur la pensée et l'œuvre de Clausewitz. Et en fait, non, ce n'est pas un ouvrage sur Clausewitz, c'est un ouvrage sur cette période 1780-1837 où il y a une grande réflexion militaire et donc vous montrez qu'il n'y a pas que Clausewitz qui a réfléchi à la guerre, qu'il y a d'autres auteurs, on va y revenir, notamment Jomini, qui est peut-être un des plus célèbres après Clausewitz, mais il y en a beaucoup d'autres, et que ces auteurs, parfois, se sont aussi opposés à Clausewitz, ont été en lutte intellectuelle contre lui, et vous relativisez un petit peu aussi l'apport de Clausewitz en montrant qu'il n'a pas tout inventé, qu'il y a aussi des choses qu'il a reprises chez d'autres. Justement, pourquoi s'être concentré sur cette période? Est-ce que on a les guerres de la Révolution, on a les guerres impériales, il y a aussi les guerres de la fin d'Ancien Régime, mais elle est vraiment particulière dans l'histoire militaire?
Oui, tout à fait. Alors, précisément, la période 1780-1837, elle s'appuie beaucoup sur le parcours de Clausewitz, puisque Clausewitz, il est né en 1780, il est mort en 1831, mais son œuvre a été publiée par sa veuve à partir de 1832 et jusqu'en 1837. Alors, précisément, d'ailleurs, je dirais que ce ne sont pas tellement les auteurs de cette époque qui se sont opposés à Clausewitz, c'est Clausewitz qui s'est opposé à eux, puisque il a quasiment pas publié ses œuvres de son vivant, et notamment son très célèbre traité de la guerre. Alors, il a publié quelques articles dans des périodiques militaires, donc il était quand même connu comme un expert de la guerre, mais il n'était pas connu de son vivant comme un véritable auteur, parce qu'il ne s'est pas engagé dans une stratégie de publication de ses œuvres. Alors, quelle est la particularité de cette époque? C'est que justement, et c'est ça qui place Clausewitz en dehors de cet univers, c'est que ce qui caractérise cette époque, c'est que la pensée de la guerre, bon, qui existait depuis l'Antiquité, mais elle s'est construite comme un champ littéraire, c'est-à-dire un phénomène social qui a alimenté des parcours professionnels. Bon, par exemple, il y a un auteur au début de la période qui est le théoricien français Guibert. Eh bien, Guibert, sa carrière militaire, elle a été alimentée par sa contribution à la pensée. Il a même été fait officier général grâce à sa gloire littéraire. Et puis, en Prusse, un personnage qui a beaucoup inspiré Clausewitz, c'est Scharnhorst. Eh bien, le parcours aussi institutionnel de Scharnhorst a été beaucoup alimenté par sa contribution à la théorie de la guerre. Et puis, par ailleurs, ça devient un phénomène éditorial. Il y a des éditeurs qui se concentrent dans cette spécialité. Il y a notamment l'éditeur français qui a édité Jomini. C'est l'éditeur Magimel. Et puis, c'est aussi un phénomène politique, puisque pendant la Révolution et pendant la période impériale, mais aussi après, pendant la période de la Restauration, la guerre est vraiment devenue un phénomène politique déterminant. Et même en Prusse, par exemple. En Prusse, la définition du soldat citoyen contribuait beaucoup à la réflexion politique. Et voilà ce que j'ai étudié. C'est comment la théorie de la guerre devient un phénomène social, politique, littéraire. Donc, pour reprendre l'expression de Marcel Mauss, c'est un fait social total. Maintenant, ça ne veut pas dire que la guerre est une guerre totale, mais c'est un fait social total qui a toutes les dimensions. Et la période 1780-1837, c'est la grande spécialité. C'est que c'est le moment où la pensée de la guerre devient pas seulement un phénomène théorique, ça devient un phénomène social total.
Vous parlez de la réflexion sur la guerre, de l'écriture sur la guerre comme style littéraire. Il y a un terme que vous forgez, que le terme militéraire, donc mot valise entre militaire et littérature. C'est-à-dire qu'on écrit, est-ce qu'on recherche aussi le style? Est-ce qu'on recherche aussi la qualité littéraire au sens propre, ou ce sont uniquement des études un peu froides sur les sujets stratégiques?
Oui, alors, donc la dimension littéraire, ça n'est pas seulement la dimension stylistique, c'est aussi la capacité à mettre la théorie en œuvre. Bien, par exemple, et c'est pour ça que je me suis beaucoup appuyé sur Clausewitz, c'est parce que Clausewitz, qui n'a pas réussi à achever, par exemple, son traité de la guerre, il a été publié par sa veuve alors qu'il ne l'avait pas achevé, c'est parce que, justement, il n'a pas vraiment réussi à mettre en œuvre littéraire sa pensée. Alors, d'ailleurs, à cette époque, il y a deux styles de la pensée de la guerre. Alors, ça avait été formulé par un théoricien de la guerre à la fin du XVIIIe siècle, qui est Henry Lloyd, et il avait dit il y a deux genres de la pensée de la guerre, le genre historique et le genre didactique. Eh bien, quelle est la définition de ces deux genres? C'est une combinaison entre la dimension théorique et même épistémologique, et aussi la dimension littéraire. Alors, le problème qui structure la pensée de la guerre à cette époque, c'est que la dimension historique, elle est fondée épistémologiquement. Il y a une méthode de l'histoire, il y a vraiment un régime de traitement des sources, etc. Donc l'histoire, c'est quand même une démarche qui est encadrée scientifiquement, mais théoriser la guerre à partir de la démarche historique, c'est très difficile parce que le phénomène historique, il est justement infini. Et donc, ce que dit notamment l'auteur Guibert que j'évoquais, c'est qu'il dit que il élabore un projet d'histoire, mais il n'arrive pas à le réaliser parce que, il dit, c'est impossible de produire une théorie de la guerre à partir des cas particuliers de l'histoire, et parce que c'est infini comme phénomène. Donc, l'histoire, elle est fondée épistémologiquement, mais elle est impossible à mettre en œuvre dans la théorie. Alors, à l'inverse, la démarche didactique. C'est une démarche synthétique, thématique. Là, c'est formuler les principes de la guerre. Mais là, cette démarche, elle n'a pas de fondement épistémologique. Sur quoi est-ce qu'un auteur s'appuie pour théoriser la guerre? Eh bien, par exemple, Guibert, il dit « je m'appuie sur le portefeuille de mon cerveau ». Eh bien, et Clausewitz lui-même, il le dit. Par exemple, pour théoriser la morale de la guerre, il dit « je m'appuie sur mes sensations ». Donc ça, ce n'est pas fondé épistémologiquement, mais en revanche, c'est possible à mettre en œuvre. Or, Clausewitz, lui, il a voulu concilier toutes les démarches, historiques et didactiques, et c'est ça qu'il n'a pas réussi à faire. Alors que d'autres auteurs, eh bien, eux, ils se sont engagés dans une démarche. Alors, par exemple, Jomini, il a eu une œuvre considérable qui s'est appuyée sur la démarche historique, sur l'histoire des guerres de la Révolution et de l'Empire napoléonien. Mais après, à la fin, en 1837, quand il a voulu en déduire les principes de l'art de la guerre, il a été obligé de dire qu'il ne s'appuyait pas sur les ressources historiques qu'il avait formulées, et donc il a été obligé de s'engager dans une démarche didactique.
Le cas Jomini est intéressant parce qu'aujourd'hui, il est connu uniquement des spécialistes, il ne sort pas trop, mais c'est d'abord c'est quelqu'un qui a pratiqué la guerre. En sa biographie, en quelques mots, c'est un Helvète passé ensuite en France. Il a combattu dans les armées impériales et puis il termine du côté de l'armée du tsar. Donc c'est à la fois un théoricien et un praticien. Il sait ce que c'est que la guerre. Il a mené des combats. Il a vu un champ de bataille.
Oui. Alors d'ailleurs, la quasi-totalité des théoriciens de l'époque sont quasiment tous des militaires. Il y a quelques très rares exceptions, mais vraiment très rares. Alors, Jomini, justement, par exemple, bon, il a mené un parcours, comme vous venez de le dire. Bon, par exemple, quand il a basculé du côté de l'armée russe, il y avait des Russes qui étaient opposés à lui parce qu'ils considéraient qu'il leur avait fait la guerre, justement, jusqu'à la campagne de Russie. Et puis, à l'inverse, en France, il y avait aussi des gens qui le rejetaient parce que, bon, il y avait une sensation de trahison quand il avait basculé du côté de l'armée russe.
C'est compréhensible.
Eh bien, justement, Jomini, il s'est appuyé sur une stratégie d'auteur et il a acquis une gloire mondiale en s'engageant dans cette stratégie d'auteur. Il est devenu vraiment, à cette époque, l'auteur de référence. La théorie de la guerre, à cette époque, elle est dans la théorie de la guerre, eh bien, Jomini apparaît comme la référence totale. Et Clausewitz, il est très marginal. Par exemple, il y a un auteur prussien à cette époque, en 1824, qui a fait un inventaire de toutes les publications. Eh bien, il n'évoque qu'un seul ouvrage de Clausewitz, et qui est très... il est vraiment marginal dans le champ, ce que vous avez évoqué, cette notion de champ militaire, c'est-à-dire soulever la problématique de la combinaison entre la pensée et la capacité à la mettre en œuvre. Maintenant, je le dis, c'est la capacité à mettre en œuvre et à publier, ça n'est pas la seule modalité de la pensée. Il y a une pensée militaire qui est confidentielle. Il y a un régime de production de mémoires qui circulent dans le domaine militaire et qui ne sont pas publiés. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai voulu me concentrer sur l'enjeu de la publication, mais aussi de la publicisation, c'est-à-dire de l'insertion de la pensée dans la sphère publique.
Alors, vous avez devancé une question que je vais vous poser justement sur pourquoi Clausewitz est-il aujourd'hui populaire? Pourquoi est-ce que c'est lui qui aujourd'hui est l'auteur cité? Et comment s'est fait ce basculement justement entre un Clausewitz ignoré et un Jomini tout puissant, et puis finalement l'inverse maintenant?
Alors, bien, c'est le grand paradoxe, c'est que à l'époque de Clausewitz, les auteurs qui théorisaient la guerre s'appuyaient sur la guerre de leur période. Et par exemple, la démarche de Jomini, elle s'est fondée sur l'étude des guerres révolutionnaires et impériales. Et donc, comme je l'ai montré, la quasi-totalité des auteurs de cette époque, ils s'insèrent dans le contexte social, militaire, politique de leur époque. Or, justement, lui, Clausewitz, comme je le disais, il n'arrive pas à s'insérer. Il n'arrive pas à créer une stratégie d'auteur insérée dans ce contexte. Et donc, il a formulé, notamment dans son dans sa notion de guerre absolue. Il a formulé une essence de la guerre qui est définie comme un phénomène transhistorique, c'est-à-dire qui est un phénomène éternel et universel. La guerre absolue, selon Clausewitz, c'est l'essence morale de la guerre. Et cette essence, alors, bien sûr, elle peut être, son application peut être soumise à ce que Clausewitz appelle les conditions de la guerre réelle, ce qu'il appelle notamment les frictions politiques, les frictions géographiques, etc. Mais il dit qu'il y a quand même, donc, il y a parfois des circonstances qui font que la guerre absolue, elle peut se manifester. Et donc, comme il a théorisé la guerre absolue comme un phénomène transhistorique, eh bien, ça a alimenté sa gloire posthume. Parce que, justement, aujourd'hui, par exemple, encore, certains peuvent se référer à Clausewitz, parce que Clausewitz, certains lui attribuent la gloire d'avoir formulé des principes éternels et absolus de la guerre, alors que Jomini, il est présenté quand même comme un théoricien qui est inséré dans son contexte.
Donc ce qui était une faiblesse à l'époque de Clausewitz est devenu une victoire ou une force pour la postérité.
Exactement, voilà. Et ça a alimenté notamment sa concentration sur la dimension morale. Et par exemple, à la fin du XIXe siècle et tout au cours du XXe siècle, certains théoriciens, justement, disaient que... je prends par exemple un théoricien britannique, Lidl Hart, dans les années 1930, qui a produit une théorie de la stratégie. Alors, il n'était pas favorable aux conclusions de Clausewitz, mais quand même, il s'y appuyait beaucoup sur sa démarche, parce que Lidl Hart dit que le facteur technique de la guerre, ça c'est un phénomène historique, et donc là, ça produit des transformations, mais il dit, si on veut étudier la stratégie, il faut se concentrer sur le phénomène moral. Alors, il n'est pas d'accord avec les interprétations de Clausewitz du phénomène moral, et note surtout du lien entre la morale et la politique, mais... il s'appuie quand même aussi sur cette démarche essentialiste, c'est-à-dire réfléchir sur l'essence de la guerre et la dimension morale, elle alimente beaucoup. Et par exemple, dans la théorie, dans la pensée stratégique au XXe siècle, il y a une dynamique qui a été beaucoup alimentée par Clausewitz. C'est par exemple l'application de l'éthologie à la pensée stratégique. Or, qui a alimenté l'application de l'éthologie à la pensée stratégique? Eh bien, c'est Clausewitz, en se concentrant. Alors, parce que Clausewitz aussi dit que quand il étudie le phénomène moral, il ne considère pas le phénomène moral comme un fait social, comme un fait historique, mais comme une essence philosophique. Voilà. Et donc, c'est ce qui a rendu sa théorie totalement inadaptée à son époque, parce que qu'est-ce qui se passe à l'époque de Clausewitz? C'est le moment, donc le début du 19e siècle, c'est le moment où justement le phénomène moral a été scientificisé, c'est-à-dire qu'il s'est inséré dans les sciences humaines. Il y a eu par exemple deux dimensions des sciences humaines qui se sont concentrées sur le phénomène moral de la guerre, l'anthropologie et la psychologie. Et donc là, Clausewitz, par exemple, non seulement... Il ne prend pas compte de ça, mais carrément, il a même... Alors là, je ne sais pas s'il a ignoré ou s'il a rejeté cette dimension, mais par exemple, il dit que l'analyse du phénomène moral ne peut pas être un phénomène, là je le cite, livresque. Or, justement, c'est exactement ce qui se passe à son époque. Il y a des théoriciens qui attribuent au phénomène moral une valeur de science humaine.
Il y avait deux sujets que je voulais évoquer. La question du citoyen-soldat, mais on en parlait un peu plus tard, mais rester un peu sur Clausewitz, et notamment sur la question de la Prusse. Parce que Clausewitz est prussien, on est au début de l'émergence de la Prusse, qui commence à devenir une belle nation militaire, et on sait évidemment que cette belle nation militaire a eu un grand avenir au 19e et au 20e siècle. Et vous montrez aussi dans votre ouvrage qu'il y a un début de fascination pour la Prusse. Pour Frédéric II notamment. Alors, ça avait aussi commencé d'ailleurs antérieurement, dès le 18e. Oui. Est-ce que c'est uniquement parce que la Prusse est puissante militairement qu'il y a cette fascination, ou il y a d'autres raisons aussi qui fait que on a là une puissance émergente qui prend une place de plus en plus importante sur le continent européen?
Alors, il y a, là, il y a vraiment une dynamique qui est très ambivalente. C'est que, donc, pendant la guerre de 7 ans, de 1757 à 1763, qui a été menée pour la Prusse par le roi Frédéric II, eh bien, c'est là que la Prusse a élaboré un système de guerre considéré, notamment par le théoricien français Guibert, comme le système de la guerre moderne, c'est-à-dire comme un phénomène absolu, c'est-à-dire qu'il dit qu'il y a les principes de la guerre, et les principes de la guerre ne peuvent pas être soumis aux cultures nationales. Il dit que c'est un phénomène auquel toutes les nations doivent se soumettre. Et donc là, la Prusse est apparue des années 1760 jusque à l'époque de l'Empire napoléonien, la Prusse était présentée comme la référence vraiment du système de guerre. Alors après, pendant la Révolution, quand même, la France, elle s'est imposée, parce que la France, elle avait perdu la guerre de 7 ans. Hein. La France s'est imposée comme la plus grande puissance militaire, mais il y avait une problématique pendant la Révolution française, c'est que il y avait une perception des guerres de la Révolution française comme un phénomène politique, mais pas vraiment comme un phénomène de guerre, comme un système de guerre. Alors, en revanche, c'est plutôt la période napoléonienne, alors qu'il y avait quand même une dimension très systémique qui avait été notamment formulée par Carnot, mais ça, c'était mal perçu. Eh bien, ce qui s'est caractérisé pour la Prusse, c'est que la Prusse, elle a été vaincue à la célèbre bataille de Iéna à Auerstadt. Et donc, il y a eu quand même une dimension, et ça a beaucoup alimenté quand même aussi la démarche de Clausewitz, c'est que au début du XIXe siècle, la Prusse apparaissait comme le pays dont le système de guerre qui avait dominé même le monde, eh bien, désormais, c'était effondré et soumis au système napoléonien. Donc, il y avait une problématique de reconstitution à partir donc de la chute de l'Empire napoléonien en 1815, il y a eu une problématique dans la Prusse de reconstitution d'un système de guerre. Et là, justement, Clausewitz, il avait un problème aussi d'insertion. Hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu s'appuyer sur sa théorie pour contribuer à la reconstitution du système prussien. Et parce que donc au début du 19e siècle, quand même, ce qui apparaît comme le modèle de la guerre, c'est le modèle napoléonien.
Est-ce que Clausewitz a été lu ensuite par les théoriciens prussiens d'une part et allemands ensuite? Je pense à la guerre de 70, la première, deuxième guerre mondiale. Il a une postérité pour les stratèges militaires?
Exactement, oui, tout à fait. Alors, l'influence de Clausewitz, elle est devenue très forte, surtout donc à la fin du XIXe siècle. Alors, en Allemagne, elle a été un petit peu plus précoce. Il y avait quand même, dès la publication de ses œuvres complètes par sa veuve, là quand même dans le domaine théorique allemand, il a exercé quand même une influence qui s'est manifestée dès les années 1840 et surtout 50-60. Mais comme son œuvre n'a pas été traduite en français, alors elle a été évoquée, elle a été résumée par un militaire français qui s'appelle Labarre du Parc, mais pas vraiment, pas traduite intégralement. C'est seulement à partir des années 1880 que la théorie de Clausewitz s'est diffusée dans le domaine français. Et là, la France s'est vraiment appuyée beaucoup sur sa théorie parce que, comme l'a souligné par exemple Ferdinand Foch, à cette époque, il y avait l'idée que la soumission de la guerre au phénomène technique qui alimentait une puissance de feu considérable, eh bien, ça perturbait et ça détruisait la possibilité de mener des tactiques. Certains théoriciens de la guerre considéraient que la puissance de feu, ça devait juste une projection de puissance, et donc il n'y avait plus de tactique possible. Et donc certains pensaient que la puissance de feu détruisait la pensée de la guerre. Et donc, justement, pour relancer la théorie de la guerre, beaucoup se sont appuyés sur Clausewitz en disant que qu'est-ce qui alimente la pratique de la guerre ? C'est le phénomène moral. Et donc, par exemple, Ferdinand Foch, il a présenté une bataille comme un phénomène moral, et que le phénomène moral pouvait justement surmonter le phénomène technique de la puissance de feu.
Qu'est-ce que Foch appelle exactement un phénomène moral ?
Bien, alors justement...
Quand on pense à morale, on pense à éthique ou à...
Il se concentre beaucoup sur la motivation patriotique. Bon, par exemple, Foch, il pose un problème dans son livre, hein, ça avait été aussi un enseignement à l'école supérieure de guerre, donc sur les principes de la guerre. Eh bien, il dit, dans le contexte d'une bataille, comment les soldats peuvent-ils surmonter le fait de subir la puissance de feu ennemi ? Eh bien, il dit, il faut s'appuyer sur un régime de mobilité, il faut que la bataille soit livrée vite, parce que plus la bataille sera courte et moins il y aura de morts, moins il y aura de pertes. Et il faut aussi surmonter le fait de subir la puissance de feu ennemi en se projetant sur l'ennemi. Et à ce moment-là, une fois qu'on est en contact avec l'ennemi, utiliser la baïonnette. Et là aussi, hein, Clausewitz, il avait dit que l'arme blanche, c'était un phénomène moral. Et donc, Foch explique comment alimenter la tendance des soldats à surmonter la peur, à surmonter la sensation de subir la puissance de feu. Eh bien, il dit il y a le facteur patriotique, c'est ça qui alimentera leur engagement dans la guerre et dans la bataille surtout. Et là, il dit, ça permettra de mener une bataille décisive qui pourra permettre d'abréger la guerre. Donc voilà, ça lui permet de dire que une guerre qui est clôturée par une bataille décisive, finalement, ça sera une guerre qui ne sera pas si mortelle que ça, parce qu'elle sera courte.
Alors, justement, cette question de l'aspect patriotique, ça renvoie à l'autre sujet que je voulais évoquer avec vous, le citoyen-soldat. C'est une nouveauté de la guerre de la Révolution. On n'a pas avant de guerre nationale.
Alors, si, justement. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Napoléon. Napoléon, après la chute de l'Empire, il dit que la conscription, qui est le modèle du recrutement des citoyens-soldats, il dit, c'est un phénomène ancien. Par exemple, qui avait créé le régime de service militaire obligatoire ? C'est Louis XIV, en 1688, en créant la milice royale. Alors ça, c'était pas du tout un phénomène exceptionnel. Il y avait des pays qui, déjà, par exemple, la Suède, depuis le XVIe siècle, elle avait créé un régime de conscription. Et puis, la Prusse, elle était aussi présentée comme un modèle du service militaire obligatoire avec un système de recrutement qui s'appelait le Canton System. En gros, bon, très rapidement, la Prusse, bon, à l'époque de Frédéric II, elle implantait un régiment dans un canton, et dans ce canton, tous les jeunes hommes étaient soumis à un régime de service militaire obligatoire pour alimenter le recrutement de ce régiment. Alors, mais le problème, c'était que ce canton système était appliqué de façon très aléatoire. Ce n'était pas un service militaire obligatoire universel. Exactement. Alors, c'est le même cas pour la France. Hein. La milice royale, elle n'était pas universelle. Mais quand même, il y a un phénomène qui est très, très emblématique. C'est qu'en 1726, le recrutement de la milice royale, il s'était prolongé au-delà de la guerre, en temps de paix. Alors que, justement, au début de la Révolution française, il y avait des partisans de la création d'un système de conscription. Il y avait Carnot, il y avait Dubois-Crancé, mais ce projet a été rejeté. Et quand même, l'idée qui a dominé, c'était de dire le service militaire obligatoire, c'est un phénomène tyrannique de la monarchie. Et donc, il n'y a pas présentation à cette époque d'une naissance de la République s'appuyant sur le service militaire obligatoire. Mais c'est ce qui s'est quand même construit. Alors, en 1793, il y a eu la levée en masse. Mais la levée en masse, comme son nom l'indique, c'était une levée. C'est-à-dire, c'est un phénomène exceptionnel. Mais la levée en masse, elle a mobilisé un nombre d'hommes très important. Mais justement, ce phénomène exceptionnel fait que... Alors, en 1794, l'armée française a atteint à peu près 750 000 hommes. Mais comme la levée en masse, c'était un phénomène unique, eh bien, à la fin de 1794 et surtout au début de 1795, par exemple, eh bien, l'effectif militaire de l'armée républicaine est... s'est retrouvé à peu près au même niveau que l'effectif militaire de l'armée de Louis XIV. Et à cette époque, il y a un théoricien qui a pris l'enjeu de cette dimension, c'est Grimoard. Grimoard, il a dit que la gestion de l'économie des forces, c'est-à-dire des effectifs, mais aussi de ressources financières, des ressources matérielles, eh bien ça, c'est le phénomène déterminant. Eh bien, c'est ce qu'a alimenté le concept en France de guerre de masse. Alors, la guerre de masse, c'est gérer, et là, ce concept-ci, économie des forces, c'est Vauban qui l'avait formulé, et sur lequel Carnot, auquel il s'est référé. Et donc, là, il ne faut pas du tout présenter, alors, à cette époque, on ne présentait pas justement du tout l'engagement des citoyens dans la guerre comme un phénomène absolu. C'est au contraire. Par exemple, le décret de levée en masse en 1793 dit que les citoyens qui sont mobilisés, ils sont mobilisés, je cite le décret, au service de l'armée. Et donc, finalement, contrairement à ce qu'on imagine quand on, par exemple, on a tendance à dire la guerre nationale, les citoyens soldats, eh bien, ça donne l'impression que c'est la nation qui s'engage directement dans la guerre, que c'est le peuple en armes. Eh bien, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, l'engagement du peuple dans la guerre, il est géré par l'autorité centrale, gouvernementale, et il est géré par la dimension militaire. Alors ça, là, c'est un des... vous savez, le titre de mon livre, c'est « Contre Clausewitz », c'est pas moi qui ne suis contre Clausewitz, mais c'est ses contemporains, mais il y a quand même une citation de Clausewitz que j'ai contestée, c'est que Clausewitz dit que lorsque le peuple s'engage dans la guerre, il le fait à la place de l'armée et à la place du cabinet. Or, il dit, c'est ce qui s'est passé en 1793 en France. Or, c'est très exactement le contraire de ce qui s'est passé. Le peuple s'est engagé dans l'armée, et notamment le rôle du cabinet. Eh bien, le rôle du cabinet, à l'époque de Carnot, le comité de salut public, eh bien, il a géré la guerre de façon beaucoup plus intense, par exemple, que l'avait fait Louis XIV. La soumission de la guerre à l'autorité centrale, a été vraiment inédite sous la Révolution. Le comité de salut public avait plus d'impact sur la conduite de la guerre que Louis XIV en avait eu.
Est-ce que c'est ça aussi qu'on appelle l'impôt du sang, ou c'est réservé uniquement à l'aristocratie ?
Alors, l'impôt du sang, effectivement, c'était réservé initialement uniquement à l'aristocratie, à la noblesse. Les concepts qui se sont développés à l'époque révolutionnaire, il y a eu quand même un appui sur cette dimension. Par exemple, au début de la Révolution, il y avait deux régimes civique. Tous les citoyens n'étaient pas dotés de toutes les valeurs, de tous les droits civiques, et notamment le droit de vote. Eh bien, par exemple, il y avait eu un décret en août 92 qui attribuait à tous les citoyens engagés dans la guerre, eh bien là, tous les droits civiques. Alors après, il y a eu la création de la République, et d'ailleurs, la création de la République, hein, la proclamation de la République le 21 septembre 1792, c'est au lendemain de la bataille de Valmy. Et le slogan qui avait été prononcé à la bataille de Valmy, c'était « Vive la nation ». Or, « Vive la nation » à Valmy, ça ne veut pas dire « Vive la France ». C'est « Vive la nation » comme corps civique. Et donc, là, effectivement, il y a cette dimension qui s'est vraiment installée. C'est présenté, effectivement, quand même. Alors, ça a surmonté le rejet du service militaire comme un phénomène tyrannique. C'est qu'il y a un phénomène qui s'est installé, c'est que l'insertion du citoyen dans le domaine militaire a contribué à la naissance de la République. Et par exemple, en 1792, il y avait une association féministe qui avait présenté une pétition à l'Assemblée en disant, et donc là, les femmes revendiquaient le droit civique, elles voulaient avoir tous les droits civiques, elles voulaient être considérées comme de vraies citoyennes.
Donc on en va dans l'armée aussi, alors.
Et exactement, la première revendication, c'était l'autorisation à entrer dans l'armée. Et d'ailleurs, là, la dimension du genre, hein, masculin et féminin, ça a un rôle vraiment structurel. Parce que qu'est-ce qui définit le soldat citoyen ? Bien, il suffit de chanter la Marseillaise, puisque donc c'est un enfant de la patrie déjà. Donc c'est déjà un fils. Et puis, il entend dans les campagnes mugir les féroces soldats qui viennent égorger ses fils et ses compagnes. Eh bien, ses compagnes. Et donc, ça définit le citoyen, le soldat citoyen, comme un mari et un père. Et après, il y a un autre champ qui est encore plus vraiment représentatif, c'est le chant, le célèbre chant du départ, donne la parole à beaucoup de femmes et qui définissent vraiment le soldat citoyen comme un père de famille, comme un fils et comme un époux. Et donc là, l'insertion du soldat dans la sphère civique s'appuie beaucoup, effectivement, sur la dimension familiale, sur la relation avec les femmes. Et dans les années, à l'époque de Clausewitz, en 1835 notamment, il y a un auteur qui s'appelle Alfred de Vigny, qui avait publié un ouvrage intitulé « Servitude et grandeur militaire », et il a étudié la problématique de l'insertion du phénomène militaire dans la société à l'époque napoléonienne. Eh bien, il y a notamment, il cite un cas, il évoque un cas d'un officier de l'époque napoléonienne qui a déterminé son parcours militaire en fonction de son rapport avec une femme. Et d'ailleurs, Alfred de Vigny le dit, ce qui contribue vraiment au-delà de ce cas particulier, eh bien, cette femme s'appelle Laurette. Hein, et donc, il y a un passage qui s'appelle « Oh Laurette, ma Laurette hein, ». Et il dit que, justement, Alfred de Vigny contribue à dire que le phénomène social, c'est pas que des hommes, et que ce qui détermine aussi la position du soldat, c'est sa relation avec les femmes. Donc ça aussi, quand on parle du soldat citoyen ou du citoyen soldat, eh bien, à cette époque, il y a une étude, beaucoup d'études, qui contribuent à considérer le soldat citoyen ou le citoyen soldat comme un fait social. Et il y a notamment un auteur qui s'appelle Alexis Monteil, c'est lui qui a formulé le concept d'histoire-bataille, et qu'il dit, pour faire l'histoire de la guerre, il faut faire l'histoire de divers états. Alors, ce qu'il appelle les divers états, c'est les divers états sociaux. Et donc, c'est vraiment Alexis Monteil qui a inventé l'histoire sociale. Et donc, là, il y a beaucoup d'auteurs qui considèrent que, eh bien, le soldat citoyen, c'est pas seulement un phénomène théorique ou un phénomène civique, c'est aussi un phénomène social. Et ça, c'est ce que Clausewitz ne prend pas en compte. Il ne traite pas du tout la dimension sociale.
Justement, sur cet aspect de dimension sociale, vous évoquiez tout à l'heure la question de l'acceptabilité de la guerre pour le soldat, lorsqu'il est au feu. Il y a aussi l'acceptabilité de la guerre pour le civil, qui lui aussi fait l'effort de guerre. les mères qui voient partir leurs enfants et certains restent au front. Donc il faut aussi que dans la société civile, on accepte la guerre pour que la guerre puisse avoir lieu.
Exactement. Et là, c'est un phénomène vraiment fondamental. C'est une problématique. L'insertion, une problématique de la Révolution française et aussi pendant l'Empire, c'est l'insertion du phénomène de la guerre dans la société. Il faut effectivement rendre la guerre admissible par la société. Et comme je le disais d'ailleurs, il y a une grande concentration sur le rôle des femmes dans l'acceptation de la guerre. Il faut, et il y a eu une dimension, par exemple, il y a eu une dimension politique d'entretien d'un héroïsme féminin. Par exemple, il y a une œuvre qui était publiée, c'était un périodique, qui était publié par la Convention, donc l'Assemblée, pendant la période de la République, au début de la création de la République, donc jusqu'en 1795. Eh bien, ce périodique s'appelait « Le recueil des actions héroïques et civiques ». Eh bien, ça racontait des actions alors qui étaient majoritairement militaires, mais il y avait aussi des femmes qui menaient des actions héroïques. Alors que les femmes, elles avaient été rejetées en avril 93, du domaine militaire. Mais malgré tout, il y avait la volonté d'entretenir l'idée que, symboliquement, que les femmes contribuaient à l'insertion du phénomène militaire dans la société. Et ça avait alimenté notamment ce que je disais tout à l'heure, le champ du départ. Alors, il y a un phénomène qui a joué un rôle très important, c'est qu'en 1793, il y a eu la création d'un régime de pension attribué aux veuves des soldats qui étaient tués dans la guerre. Et bien ça, ce phénomène, c'est très important parce que ça avait justement une vocation qui était de faire en sorte que les familles et les femmes acceptent la mort des soldats et acceptent le phénomène militaire, mais ça a produit un effet au contraire paradoxal, c'est que ce décret, il a alimenté la diffusion de la sensation de deuil dans la société française. Et là, j'en tire cette conclusion, c'est que, vous savez, on parle souvent de la violence des guerres révolutionnaires. Or, pratiquement, les guerres révolutionnaires étaient très peu violentes. Et d'ailleurs, là, moi, j'avais fait une statistique sur les taux de perte. Eh bien, les taux de perte des batailles révolutionnaires, c'est les plus faibles de l'histoire militaire. C'était notamment dans la période qui est qualifiée souvent de terreur. Mais bon, ça, c'est une construction rétrospective, c'est un concept rétrospectif, la terreur. Mais bon, bref, dans cette période-là, en 93-94, les taux de perte des batailles, c'est 7% de morts et blessés. Donc c'est très faible. C'est plus faible qu'à l'époque de ce que, à la fin du 19e, on appellera les guerres en dentelle. Il y a des lieux communs qui considèrent que les guerres d'Ancien Régime, elles étaient faibles, elles étaient modérées, notamment à la période des Lumières, et la guerre révolutionnaire était violente. C'est le contraire, la réalité.
Pour quelles raisons est-ce qu'elles sont moins violentes, elles font moins de morts?
Justement, parce que comme l'avait théorisé Vauban, et ensuite, vous savez, Carnot, en 1784, Vauban, il avait publié un ouvrage intitulé « L'éloge de Vauban », c'est « Qu'est-ce que c'est que gérer la guerre ?» C'est gérer l'économie des forces. Par exemple, Carnot, il avait élaboré, en janvier 94, à la fin de janvier 94, un système de guerre, il s'appuie sur le constat que la France, elle était en opposition à une coalition qui avait une supériorité stratégique. Par exemple, si la Grande-Bretagne, la Prusse, l'Autriche, etc., mobilisaient toutes leurs ressources militaires, ça allait effondrer la France. Mais il dit, Carnot dit, il faut créer un système de guerre qui permettra de livrer des batailles en supériorité numérique alors que, à l'échelle stratégique, on est en infériorité numérique. Donc le système de guerre de Carnot, c'est avoir une supériorité tactique alors qu'on est dans un état d'infériorité stratégique. Comment arriver à ça? Gérer l'économie des forces, créer un système de mobilité qui permettra à des moments très ponctuels, de concentrer les forces dans un espace. Et donc, Carnot le dit, la France, comme elle est affrontée donc à une coalition très, très forte, eh bien, il faut gérer cette économie des forces sur la longue durée. Il faut que la France puisse gagner, puisse conserver ses capacités de faire la guerre. Et donc, le système de guerre révolutionnaire était peu intense. Hein ? Alors, après, à l'époque napoléonienne, il y a eu une légère intensification. Là, le taux de perte moyen des batailles est passé à 11%. Mais c'est quand même pas énorme non plus. Hein ? Mais ce qui a caractérisé quand même les batailles, la guerre napoléonienne, c'est l'ampleur. C'est pas l'intensité, c'est l'ampleur. Ça a été une guerre quasiment mondiale. Et en tout cas, sur l'échelle européenne, c'est une guerre qui avait lieu du Portugal à la Russie. Donc ça, ça a provoqué quand même beaucoup de pertes. Mais pas des pertes provoquées par l'intensité des batailles. Alors, donc, malgré tout, eh bien, il y a eu une sensation de la violence. C'est que la violence, ça n'est pas un phénomène purement objectif. La violence, c'est aussi un phénomène subjectif. C'est, bon, je me réfère à aujourd'hui, vous savez qu'on décrit souvent la période que nous vivons comme une période violente. Eh bien, si on se réfère au taux de perte, eh bien, on pourrait, à ce moment-là, on dirait qu'on vit dans une période qui est très peu violente. Hein, mais il y a une sensation de la violence. Alors, c'est notamment ce qui alimente le terrorisme. Le terrorisme, ça provoque des pertes assez limitées, hein, par rapport à, par exemple, c'est pas du tout le taux de perte d'une bataille, etc. Mais ça alimente une sensation violente.
Est-ce que c'est pas dû aussi au fait, pour les guerres révolutionnaires, comme elles ont duré très longtemps et qu'il y a eu plusieurs batailles, on a une diffusion de la guerre sur un espace de 25 ans. Donc ça renforce cette idée de combat perpétuel et donc de mort perpétuelle.
Oui, alors effectivement, cette guerre a duré, ce régime, ce système de guerre, il a duré longtemps, mais à peu près aussi, ça a été peu pris en compte. Par exemple, la dernière période du règne de Louis XIV, il y a eu une séquence de guerre qui a duré de 1688 à 1714, donc c'est quasiment... Alors, il y a eu juste une petite interruption de 4 ans. Bon, mais donc... Et puis en plus, si on étudie tout l'ensemble du règne de Louis XIV, c'est une année sur deux, c'est une année de guerre. Hein. Donc, bon. Alors, effectivement, vous avez raison. C'est-à-dire que malgré tout, même les guerres de la Révolution, elles étaient aussi... Alors, pas intense, mais elles avaient quand même une dimension quand même d'ampleur. Hein, c'est qu'elles étaient menées sur plusieurs espaces, alors qui ont été essentiellement frontaliers. Hein, Flandre, Rhin, Italie, Pyrénées. Et puis aussi, il ne faut pas non plus négliger cette dimension, il y a aussi la dimension navale. Hein, alors, ces guerres étaient peu intenses, mais elles ont été amples, effectivement, amples. Chronologiquement et géographiquement. Et c'est aussi ça qui alimentait aussi la perception quand même de la violence. Mais vous voyez, la violence, ça reste quand même un phénomène qui est... alors, je dirais qu'il y a deux dimensions de la violence. Une dimension objective et subjective, c'est-à-dire qu'on peut mesurer quand même le niveau de violence en calculant les nombres de pertes. Et donc, il y a une dimension objective et subjective, et puis, une dimension physique et morale de la violence. Et donc, les guerres de la Révolution et de l'Empire ont été perçues comme un phénomène violent, parce que, bon, à l'époque de l'Ancien Régime, quand un soldat était tué, eh bien, il y avait une négation totale de cette mort. Alors, bien sûr, il y avait un sentiment de deuil qui se répandait dans la famille, hein, mais ça n'était pas un phénomène social, parce qu'on considérait que le soldat n'était pas un citoyen, et que le soldat, quand il s'engageait dans l'armée, eh bien, il coupait le lien qu'il avait avec la société et avec sa famille. Et donc, quand un soldat mourait, ça n'affectait pas la société. Eh bien, sous la Révolution, quand la Révolution s'est fondée sur la fusion entre le soldat et le citoyen, eh bien là, ça a alimenté le fait que quand un soldat mourait, eh bien, ça alimentait le deuil de la société.
On l'a d'ailleurs aujourd'hui, on a très peu de morts dans l'armée française, mais quand il y en a un, c'était hommage national aux Invalides, donc ça a une résonance sociale beaucoup plus forte que la guerre d'Algérie ou la Deuxième Guerre mondiale, avec un taux d'attrition beaucoup plus important.
Voilà, exactement. Là, aujourd'hui, on est vraiment dans un régime, effectivement, alors d'héroïsation même, hein, de glorification, de individuellement tous les soldats. C'est-à-dire actuellement, tout soldat qui est tué à la guerre, eh bien, il bénéficie d'un statut de gloire. Alors que, bon, à des époques où... Alors, ça, c'est le paradoxe de la violence. C'est que, je dirais que plus une société est... moins une société est violente, eh bien, plus elle est sensible à la violence. Et donc, presque paradoxalement, je dirais que moins une société est violente, et plus elle est violente, parce qu'elle a une sensation très forte des phénomènes violents.
Merci beaucoup, Hervé de Révillon, d'avoir évoqué ces questions qui dépassent largement le cadre de Clausewitz et qui nous permettent de comprendre aussi comment la guerre est pensée et comment la guerre est vécue. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Penser et écrire la guerre contre Clausewitz, 1780-1837 » qui est paru chez Passé Composé, dont toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Site internet revueconflit.com, sur lequel vous pouvez également, dans notre boutique en ligne, retrouver notre numéro consacré à la mer de Chine, notre hors-série consacrée à l'armée de terre et l'ensemble de nos anciens numéros. Et si vous voulez offrir des abonnements à Noël pour Conflit, vous pouvez aussi le retrouver sur notre boutique en ligne. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Géopolitique.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.